On continue notre belle petite étude, parce que moi, je répète toujours ça, des petites études, même si ça dure une quinzaine de semaines. Les sujets sont importants, c'est tout biblique, ça, frères et sœurs. Comme j'ai dit au début de la réunion, je le répète une autre fois, Jésus a bien dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. En fin de compte, sont où ces paroles? Parce que quand l'apôtre Paul a parlé, c'était aussi les paroles de Jésus. Puis quand l'apôtre Pierre a parlé, c'était aussi les paroles de Jésus. Jacques, Jean, Tite, ce sont toutes les paroles de Jésus. Il dit, quiconque entend ces paroles et les met en pratique, c'est le but de nos réunions pour qu'on puisse approfondir les sujets pour pouvoir les mettre en pratique. On est en train de regarder dans le thème le chrétien et ses responsabilités. Parce que, comme je vous le dis à chaque réunion, Dieu nous a tout préparé, il nous a tout donné. Puis là, on se demande, « Ouais, mais qu'est-ce que je dois faire? » Mais là, ça tombe sur qu'est-ce qui fait partie de notre responsabilité. Dieu fera pas tout à notre place. Puis il nous a confié des tâches, puis il nous a confié aussi on peut dire que c'est des commandements, c'est des ordres, on peut dire que c'est des suggestions, mais des suggestions vitales. Parce que si on le fait pas, on passe à côté de ce qu'il avait préparé. Dans ce sujet-là, c'est vital. Il y a comme les autres sujets aussi, souvent sont vitales. Parce que si on veut persévérer jusqu'à la fin, faut être sérieux dans notre marche chrétienne pour démontrer qu'on est vraiment des vrais croyants. Pas juste comme le diable qui croit, mais lui, il s'en va en enfer. Il va y aller dans l'étang de feu, lui, dans le feu éternel. C'est un vrai croyant, ça, le diable. Il croit en Dieu, mais croire en Dieu n'est pas suffisant. Il faut être de ceux qui mettent en pratique ce que Jésus a dit, ce que le diable fait pas. Il fait le contraire. Il tord tout ce qui est écrit. Il n'y a pas de vérité dans le diable. Dans le fond, là, c'est du mensonge. C'est pour ça que les religions, quand elles ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit provenant de la parole de Dieu, c'est tout du détourné, c'est tout du tordu, c'est tout croche, c'est tout interprété à l'envers, puis ça amène le monde dans l'égarement, dans la perdition. Aujourd'hui, on va voir qu'il faut chercher à se nourrir chaque jour de la parole de Dieu, parce qu'elle est très importante dans notre vie, sur plusieurs aspects. On va regarder ensemble que le Seigneur s'attend que chacun de ses enfants ait de l'intérêt à se nourrir de sa parole. Puis il y a plusieurs raisons qui ont été expliquées par Dieu pourquoi qu'on devrait s'en nourrir. Il y a des, comme je vous disais tantôt, c'est même vital. La parole de Dieu est une nourriture qui nous permet de rester en vie spirituellement parlant. Moi, si je mange 3 repas par jour de nourriture normale, ça permet à mon corps de rester en vie. Mais Dieu a établi le système que notre vie spirituelle, notre esprit, va rester en vie si tu te nourris de la parole de Dieu. Si tu négliges cela, tu vas commencer par t'affaiblir. Ta foi va défaillir. Puis là, ta vie, tu seras plus en train de vivre selon ce que l'Esprit de Dieu veut t'emmener, tu vas marcher dans ta chair, puis dans les choses que Dieu nous a appelées à fuir. Dans Matthieu 4:4, Jésus répondit, il est écrit, c'était écrit dans l'Ancien Testament, puis Jésus l'a répété dans le Nouveau Testament, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme doit vivre, continuer à se maintenir en vie, c'est ça que ça veut dire, vivre. Continuer à se maintenir en vie en se nourrissant pas juste de pain, mais en se nourrissant de la parole de Dieu, de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Puis la place principale où ce que ça sort, qui est toute là, qu'on apprenne ce qui est écrit là-dedans. Parce que ça nous maintient en vie spirituellement parlant, sur plusieurs façons. On va en voir tantôt d'autres versets qui nous parlent dans ce sens-là, puis des effets bénéfiques que la parole fait dans notre vie quand on la laisse rentrer dans notre esprit, dans notre âme. La parole de Dieu, c'est comme du lait spirituel. C'est une nourriture. C'est pas juste figuré, c'est réel. Parce que Jésus qui dit, tu vivras pas avec de pain, tu vas vivre avec la parole, c'est parce que c'est important, là. Il voulait que ses disciples continuent à rester en vie. Tu as beau être né de nouveau aujourd'hui, si dans 5 ans, t'as vraiment nourri de la parole, puis t'es rendu égaré, puis tu as perdu de vue la vie chrétienne, c'est quoi? Mais t'es perdu. Ça nous dit dans la parole que la Bible, c'est du lait spirituel qui nous permet de croître dans le Seigneur. 1 Pierre 2:2, ça dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés ». Il y en a-tu qui savent comment ça le souhaite, un enfant nouveau-né? Comment est-ce qu'il manifeste qu'il a souhaite? Mande ça à ma fille. Quand elle a souhaite, sa mère le sait. Mais ça dit à nous de faire la même affaire. À des adultes, ça nous dit de désirer comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur. Puis il y a un but pour cela. Afin que par lui, ce lait-là, vous croissiez pour le salut. Il y a une croissance que le chrétien doit avoir. Puis sans le lait spirituel, qui est la parole de Dieu, n'aura pas de croissance. On peut paraître bien beau, puis mettre du spray net, puis il y en a qui vont se mettre du fort à joue, puis tout le kit, du rouge à lèvres, pour bien paraître extérieurement. Mais l'intérieur est sec, vide, parce qu'il n'y a pas de parole de Dieu dans sa bouche, puis dans son cœur, puis dans son esprit, puis dans sa pratique. C'est ça qu'il faut s'appliquer plus que l'apparence extérieure. Moi, si vous arrivez échevelé à l'église, ça ne me dérange pas. Mais si vous arrivez sec spirituellement, ça dérange. Pourquoi vous allez dire ça dérange? Parce que quand tu rentres dans louange pour louanger Dieu, tu peux pas vraiment te connecter quand tu es sec. Oui, au bout de 3-4 chants, quand tu as réussi à reprendre ton esprit, à te reconnecter sur Dieu, mais spirituellement, si tout arrive rempli du Saint-Esprit, puis rempli de la parole, puis tu rentres dans l'église, le feu est pogné avant de commencer la réunion. C'est ça qu'il faut vivre, frères et sœurs, des gens qui sont en amour avec le Seigneur. Puis quand ils s'expriment « Alléluia », c'est parce qu'ils aiment le Seigneur. Amen. Il est en feu. La parole de Dieu, elle a comme effet qu'on croisse pour notre salut. C'est ce que ça dit dans ce verset-là. Notre salut a besoin de grandir. Oui, quand tu arrives au Seigneur, tu connais pas grand-chose à part peut-être que tu es pécheur et que tu demandes pardon. Là, tu fais la prière de repentance, tu commences. Mais après ça, tu te mets à lire la Bible, puis plus tu lis, plus que tu apprends, puis plus que Dieu se révèle, puis plus que tu deviens solide dans le Seigneur, plus aussi tu vas être capable de parler aux autres, puis de dire ce qu'il y a d'écrit, puis ça va être comme tu vas être passionné de cela. En lisant la Bible, là, veux pas, ta foi va grandir. Dans Romains 10, 17, ça dit que la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Fait qu'à plus que tu vas entendre parler de la Bible, pas de parler de la Bible, parler de ce qu'il y a dans la Bible, plus que tu vas grandir. C'est pour ça, des fois, tu entends des sermons, là, de gens, ils vont prêcher pendant 3 quarts d'heure, puis ils vont avoir peut-être un verset. Puis ils ont parlé pendant 3 quarts d'heure. C'est pas le discours du gars qui compte, c'est les versets de la parole de Dieu qui comptent. C'est pour ça qu'à chaque sujet, il doit y avoir un verset qui appuie ces choses-là, parce que c'est le verset qui est la nourriture spirituelle. C'est la parole de Dieu qui augmente la foi. Il est écrit. C'est un épée, c'est une masse, c'est le marteau que la Bible a dit. Ma parole est un marteau. Ben, au place, c'est un épée. C'est quelque chose qui est une arme offensive et défensive. La parole de Dieu a été donnée par Dieu. Puis plus tu vas l'aller, plus que ta foi va augmenter, plus tu vas être capable de vivre des affaires avec le Seigneur. Ça le dit. La foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'était écrit de même dans ce temps-là, le monde ne savait pas lire. Fait que qu'est-ce qu'il faisait? Il allait à l'église à tous les jours, pas à l'église, à la synagogue à tous les jours, puis il y a quelqu'un qui faisait la lecture de la parole de Dieu. La foi venait de ce qu'il entendait, parce que le monde ne savait pas lire. Mais aujourd'hui, on n'a pas réellement d'excuses, parce que tous savent lire. Puis en plus, tous savent écouter, parce qu'il y a la Bible en audio aussi que tu peux mettre dans ton téléphone. Tu peux l'écouter, la lecture, gratuitement. Fait que si jamais vous vous dites, moi j'aimerais ça l'écouter, je vais vous fournir les fichiers MP3. Vous pouvez même l'écouter dans votre char si vous avez un lecteur de DVD là, qui lit les MP3. Vous allez pouvoir l'écouter là en conduisant ou l'écouter dans votre téléphone parce qu'elle est rendue accessible à tous. Je vous encourage à vous procurer cela si vous avez de la misère à lire. La parole de Dieu, la Bible a dit que c'est une lampe qui est pour éclairer notre sentier. Qui que quand ils sont venus au Seigneur, savait déjà tout ce qu'ils devaient mettre en pratique dans leur vie pour le Seigneur? Personne. Tu n'as pas eu le choix quelque part d'entendre la parole pour comprendre les principes, comprendre ce que Dieu veut, ce que Dieu veut pas, pour arriver à choisir le chemin qui est le chemin de Dieu, à prendre des choix dans cette direction-là. Dans le psaume 119, 105, ça dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » C'est ce que Dieu nous a donné pour nous éclairer. Fait que quelqu'un qui dit « Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. » Première chose, mets-toi à lire la Bible. Mets-toi à lire la parole. Dieu va te le montrer. Sa parole est là pour t'éclairer. Puis si, mettons, la personne dit ça, puis elle l'a jamais lu, c'est normal. C'est normal. Tu peux pas connaître. On commence comme un bébé nouveau-né, là. Tu commences à zéro. Faut tout ce que tu apprennes dans la vie. Puis là, il dit, désolé comme un bébé nouveau-né, comme si tu auras tout à apprendre. Tu as tout à apprendre. Dieu veut te le montrer, mais il faut que tu prennes du temps pour aller la lire, puis l'approfondir. Au moins de venir à l'église à chaque réunion pour pouvoir entendre des portions, puis c'est très, pour moi, je trouve ça édifiant. J'espère que tout le monde trouve ça édifiant. La parole de Dieu, elle, en nous éclairant sur notre sentier, elle nous permet de connaître les voies de Dieu. Parce que, en tout cas, je parle par expérience, puis je suis sûr que vous avez toutes fait la même expérience. Vous avez toutes vécu votre vie personnelle avant de venir au Seigneur. Tout le monde était pogné à quelque part dans des péchés différents. Tout le monde vivait dans des choses qui déplaisaient à Dieu. Comment je vais faire pour savoir c'est quoi que Dieu veut que je fasse? Mais quand tu es un nouveau chrétien, tu n'as pas moins d'y expliquer tout ce qu'il y aura à mettre en pratique. Tu as juste à lui montrer qu'il est pécheur. Première étape où tu se repentes de sa vie de péché, qui réalise qu'il est dans une vie de péché, puis que là, qui s'engage à suivre Jésus. Mais après ça, il va avoir à apprendre les voies de Dieu. Mais quand tu lis la Bible sert à cela, à te faire comprendre la voie de Dieu. Puis plus que tu vas grandir dans la connaissance de la parole, plus tu vas pouvoir commencer à choisir des choses dans ta vie qui font plaisir à Dieu. Amen. La parole de Dieu nous permet de connaître les voies de Dieu. On voit ça dans 2 Samuel 22, 31. Les voies de Dieu sont parfaites. En réalité, là, c'est le chemin de la perfection. Quand tu connais la voie de Dieu, tu connais, il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Fait que pour être parfait comme notre Père Céleste, écoute ce que le Père Céleste a révélé comme voie parfaite. Sa voie, son chemin est parfait. Fait que qu'est-ce qu'il nous a enseigné? C'est le chemin parfait à marcher. Tu veux être parfait comme ton Père Céleste? Écoute ce que ton Père te dit dans sa parole, puis tu vas être parfait dans ta vie. La parole de Dieu est éprouvée, puis Dieu, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Plus que tu vas lire la parole, plus tu vas marcher dans ses voies, puis c'est éprouvé, il y en a plusieurs qui l'ont vécu, mais il va devenir un bouclier pour ta vie. Il va te soutenir, puis il va être avec toi. Comme Paul le dit à Timothée, ce que tu as vu, ce que tu as entendu de moi, pratique-le, puis le Dieu de paix va être avec toi. Ça veut dire, si tu suis celui qui marche dans les voies de Dieu, que Dieu est avec lui, tu regardes l'apôtre Paul, regarde Pierre, regarde Dieu était avec eux autres, puis ils vivaient des affaires, suis ce qu'eux autres t'enseignent, puis Dieu va être aussi avec toi. La parole de Dieu nous permet de devenir purs. Parce qu'il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Dans le psaume 119,9, ça dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? » Mais ça dit « En se dirigeant d'après ta parole. » Fait que quand les personnes commencent à lire la parole, elle a un effet dans notre vie. Pas juste augmenter notre foi, pas juste à nous faire croître pour notre salut. Elle va faire en sorte que notre vie va changer pour vouloir devenir plus saint, plus pur. Parce que c'est une parole qui est sainte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, bien des Bibles, c'est marqué « Sainte Bible ». Mais on n'a pas besoin de se le faire dire par le couvert. Si on se met à la lire, là, on va s'apercevoir comment la Bible, c'est la parole sainte de Dieu. C'est pour devenir parfait, c'est ce que ça dit, les voies de Dieu sont parfaites. Ce qu'il y a décrit là, c'est la perfection. Puis quand quelqu'un s'enligne à vouloir mettre ça en pratique, comme Jésus l'a demandé, mais sa vie va devenir de plus en plus sainte. C'est pour ça, dans l'Apocalypse, ça dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Puis ça va être un travail pour tout le reste de notre vie. Donc, on a à continuer à se nourrir de la parole pour devenir de plus en plus saint. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans notre croissance spirituelle, on monte, on croit pour le salut, mais des fois, on pique des débarques sur des affaires. On rétrograde. Je ne dis pas qu'on revient 100% comme qu'on était avant, mais des fois, il y a des moments dans notre vie où ce que on a perdu de vigilance, on a perdu peut-être de l'intérêt, peut-être qu'on prie moins, peut-être qu'on lit moins la Bible, puis on dégringole spirituellement. Mais quand on demande au Seigneur de nous aider à revenir, puis à se renier, on se raccroche au Seigneur, le Seigneur nous relève. Sept fois le juste tombe, mais il se relève. Et non plus, c'est car l'Éternel lui prend la main. Puis il nous aide à continuer à reprendre le chemin. Il nous rejette pas parce qu'on a reculé certaines affaires, mais on s'accroche, il nous pardonne, puis la sanctification va continuer, puis vous allez remonter à la pente. C'est pour ça, il faut toujours se renligner. Si on réalise qu'on a négligé, qu'on devient paresseux ou ça nous tente plus, peu importe la raison, on est découragé. Raccrochons-nous, revenons, puis commençons à la lire, puis à la méditer, puis à vouloir la mettre en pratique, puis le Seigneur va vous aider là-dedans. Amen. Je suis sûr qu'il y en a qui n'ont besoin. Moi-même, le premier. La parole de Dieu nous permet de devenir pur, c'est ça. C'est en se dirigeant d'après sa parole que notre vie de purification va se faire. La parole de Dieu vient de Dieu et nous transforme afin que nous pratiquions ce qui est bien. C'est pas automatique dans une nature charnelle comme qu'on a. Notre nature humaine, on va entraîner toute notre vie. Avec ses passions, ses désirs, ses convoitises, ses faiblesses, ses manquements, ses désobéissances, sa rébellion, là, on la traîne toute notre vie, sauf que elle peut baisser en intensité, puis en capacité dans nos vies, en influence. Ça peut baisser en influence puis qu'elle ait plus de contrôle du tout. Mais ça, c'est un combat que les chrétiens doivent apprendre à vivre par l'esprit, et non à vivre selon la chair. Puis l'Esprit de Dieu nous a laissé sa parole pour nous donner un boost physiquement, spirituellement, moralement, mentalement, plein de versets sur tous les sujets. Sa parole est là pour nous guérir, comme qu'on l'a chanté tantôt, dans tous les aspects. Puis dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, ça dit « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu ». Fait que, oui, c'est des hommes qui l'ont écrit, mais l'inspiration, qui a donné les idées à écrire là? C'est Dieu. Toutes les Écritures sont inspirées de Dieu et sont utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Si vous voulez devenir des hommes accomplis, des hommes et des femmes de Dieu, et non pas rester enfants, non pas rester bébés, devenir des hommes accomplis, des hommes faits à la stature de Christ, mais c'est la parole de Dieu qui va nous amener là. Elle a été inspirée par Dieu. Les idées qu'il y a là-dedans, c'est Dieu qui les a données. Puis le but, c'est de nous fortifier pour qu'on soit ferme dans le Seigneur, puis qu'on sache ce qui sont les œuvres qu'on a à pratiquer. Les bonnes œuvres, les œuvres de Dieu, selon son plan à lui. La parole de Dieu nous permet d'être déclaré juste en plus de ça, parce que même quand tu es chrétien, tu peux être encore appelé à être un injuste, parce que notre pratique est injuste. Mais Dieu veut nous déclarer juste, puis veut nous rendre verdoyants, puis plein de fruits. N'as-tu que veulent être plein de fruits? Parce que l'étape d'être verdoyant, tu pars bien. T'es vert. T'es un arbre vert. Il y a une différence entre un arbre qui est vert en été et un arbre qui n'a plus de feuilles en hiver. Hein? Bien plus beau un arbre plein de feuilles. C'est beau un arbre plein de feuilles, mais il veut plus que ça. Il veut que tu sois en plus plein de fruits dans l'arbre. C'est ça qui est le but. Puis c'est la parole de Dieu qui va nous permettre cela. C'est écrit dans le psaume 1, le verset 2. Ça dit « Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, puis la médite jour et nuit. » À quoi que ça sert de méditer la parole? Méditer, c'est réfléchir. Tu prends du temps pour réfléchir à ce que tu lis. Ça l'aide à t'en rappeler, mais ça l'aide aussi à l'approfondir, parce que là, tu peux faire des associations avec d'autres versets, puis ça l'aide à grandir. Puis là, il dit... l'autre verset avant, qu'on est heureux si on trouve ceux qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel puis qui la méditent jour et nuit. Ça vous est-tu déjà arrivé de vous réveiller à la nuit puis de penser au Seigneur puis penser à des versets? Moi, ça m'arrive souvent. Ça dit que quand tu es dans cet état-là, là, de penser à parole à tous les jours, parce que tu l'as médité, tu l'as gardé dans la mémoire, puis tu réfléchis à la parole. Ça dit, t'es comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, puis qui donne son fruit à sa saison, puis dont le feuillage ne se flétrit point. Ceux qui se nourrissent de la parole, puis qui ont la parole dans la méditation, t'es comme un arbre rempli de feuilles et de fruits. Tes feuilles sont belles, sont ouvertes, sont pas flétries parce qu'ils ont pogné du soleil puis ils sont secs parce qu'ils manquent de sève. Là. Des belles feuilles, des beaux fruits. Et Dieu, quand il regarde ses enfants méditer la parole, puis il a médité jour et nuit, il est voué comme des arbres verdoyants, pleins de fruits. Puis en plus de ça, ça dit, tout ce qu'il fait lui réussit. La réussite, et quand tu es dans la méditation de la parole, Dieu aime ça, puis Dieu va t'aider à ce que ta vie soit une réussite. Il dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Parce que ceux qui n'ont pas l'amour de la parole, ils resteront pas dans l'assemblée. Et heureux ceux qui la méditent jour et nuit à parole, eux autres, ils vont rester dans l'assemblée, puis ils vont continuer à devenir de plus en plus verts, puis de plus en plus pleins de fruits, puis ils vont réussir dans leur vie. Tandis que le méchant, lui, résiste pas au jour du jugement, puis il résistera pas non plus dans l'assemblée des justes. Dieu appelle juste ceux qui méditent sa parole jour et nuit, dans ce verset-là. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Il est dit, ça fait deux fois qu'on est traité de juste quand on médite sa parole jour et nuit dans ce verset-là. Puis il dit, la voie des pécheurs mène à la ruine. Mais la voie de ceux qui méditent la parole de Dieu mène à la réussite, à des vies remplies de fruits. La parole de Dieu nous permet d'être fidèles puis de réussir dans tout ce qu'on entreprend. C'est encore une autre promesse de Dieu que Dieu a dit à Josué, mais c'est une parole qui est autant applicable pour nous parce que même dans le proverbe, on venait de voir que tout ce qu'on va faire va réussir, mais Dieu l'avait promis aussi à Josué avant que les proverbes soient écrits. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Il y a un but. Pourquoi je vais me mettre à réfléchir sa parole à tous les jours, jour et nuit? Pour agir fidèlement dans tout ce qui est écrit. D'appliquer notre cœur à mettre en pratique la parole et pas se borner juste à l'écouter. C'est ça que j'ai dit au début. Jésus dit, quiconque écoute mes paroles et les met en pratique, il est semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Là, ça dit, médite la parole pour agir fidèlement dans tout ce qui est écrit. C'est autant dans l'Ancien que c'est dans le Nouveau. Parce qu'il y en a qui disent, oh, ben ça, on est obligé d'obéir dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau avec. Parce que Jésus l'a dit, quiconque entend une parole, puis il ne met pas en pratique, eux autres, il dit, leur maison va être détruite. Ils rentreront pas. Parce que la grâce aujourd'hui est mal comprise. Oui, c'est vrai qu'on est sauvé par la grâce, puis que ça vient pas de tes œuvres. C'est une grâce au départ. Mais après ça, on est sauvé pour de bonnes œuvres, que les œuvres ont besoin d'être là si tu veux vraiment démontrer que tu es en amour avec le Seigneur. C'est beau de dire, j'aime le Seigneur, je crois au Seigneur, puis je veux rien savoir de ce qu'il a à me dire pour mettre en pratique. Là, c'est ça, c'est comme le diable. Le diable avec, il connaît la parole, puis lui tout, il ne veut pas la mettre en pratique. Il faut vraiment pratiquer, frères et sœurs. Puis Dieu le voit. Il dit, médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La réussite, le succès, vient quand tu la mets en pratique. Tu médites, mais tu mets en pratique. Quand tu mets en pratique, Dieu va te bénir. Il va bénir l'œuvre de tes mains. Comme c'est écrit dans les Proverbes, la même chose, c'est écrit dans Josué, la même chose qui dit, ta maison va rester solide. Les vents vont venir dessus, puis elle va être encore là jusqu'à la fin. Voyez-vous? Yeshua a dit que les véritables chrétiens se manifesteront par l'intérêt à connaître et à vivre conformément à la parole de Dieu. Cette parole-là va nous permettre même d'être libérés. Dans Jean 8, 31, Jésus a dit à des Juifs qui croyaient en lui. Vous allez voir, juste croire, c'est pas suffisant. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça veut dire que si on demeure pas, parce qu'elle nous intéresse pas, parce qu'on veut pas mettre en pratique, ben, on n'est pas des vrais disciples. Pour prouver vraiment qu'on est des vrais, prouver qu'on est des vrais, mais il faut vivre la parole. Il faut chercher à la connaître, vouloir la mettre en pratique. C'est là que tu démontres vraiment que tu aimes Jésus. Juste croire en lui, ce n'est pas suffisant. Il faut embarquer dans le chemin des obéissants. Là, il dit, être vraiment mes disciples, si tu demeures dans sa parole. Il a dit ça à des gens qui avaient la foi. Il a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, demeurez dans ma parole, là, vous allez être des vrais disciples. Puis, ce que ça va faire? Vous allez connaître la vérité, puis la vérité va vous rendre libre. Parce qu'il y a une puissance dans la parole. Laisse-la pénétrer ton esprit, ton âme, ton corps, puis tu vas devenir de plus en plus libre des choses du monde. Si tu dis, je suis pas capable, j'y arrive pas, c'est ma nature humaine, je suis fait comme ça, puis il faut que vous m'enduriez comme ça, pas du tout. T'es pas obligé de rester comme ça. Tu peux changer. Laisse rentrer la parole, médite la parole, laisse-la rentrer, puis cherche à la mettre en pratique, tu vois ça, tu vas devenir libéré d'affaires que tu n'étais pas capable d'arrêter. Seigneur, aide-nous, continue, Seigneur, à nous libérer. Ceux qui méprisent la parole de Dieu se perdent. Ceux qui l'aiment seront récompensés par Dieu. Dans Proverbes 13:13, ça dit clairement, celui qui méprise la parole se perd. Tu le vois tout de suite quand tu parles à quelqu'un, est-ce qu'il aime entendre parler de Jésus? Dans le Nouveau Testament, ça dit la même chose dans 1 Jean, au chapitre 4. Ça dit, c'est un moyen de discerner si c'est l'Esprit de Dieu qui est là ou si c'est l'Esprit de mensonge. S'il écoute ce que tu es en train de dire quand tu parles de la parole, puis il adhère à ce que tu dis, l'Esprit de vérité il est là. Puis s'il veut pas écouter ce que tu dis, c'est l'Esprit de mensonge qui est là. C'est un moyen de discerner quel esprit qui anime quelqu'un. Quand vous êtes assis là, si jamais ça vous vient comme « Oh non, j'ai pas le goût d'entendre parler de Dieu aujourd'hui, c'est un autre esprit qui essaie de vous influencer », chassez-le dans le nom de Jésus tout de suite. Puis si ça vous vient « Ah, oh, j'ai hâte d'aller à l'église pour entendre la parole de Dieu », si ça vous vient, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de vous parler. Puis si ça de lire la Bible chez vous, c'est la même affaire. L'Esprit de Dieu va vouloir nous amener à là, puis l'Esprit du monde cherche à nous en éloigner. Il dit, celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. Si on lit, puis on a la crainte de Dieu dans ce qu'on lit, on croit que c'est la parole de Dieu, puis que c'est important, tu vas être récompensé. Dieu ne nous a pas donné ça juste pour rien. C'est comme s'il nous a laissé la parole, puis on a comme un test. On passe un test. Il nous teste pour voir si vraiment on est des vrais disciples qui vont se mettre à aller, puis à vouloir l'approfondir, puis qui aiment la vérité. Dans les lettres des avertissements de l'apôtre Paul, là, ça nous parle d'une apostasie. Ça dit que l'homme du péché va venir. Ça dit que ça va se développer au milieu où ce que les gens ils ont plus l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils vont tomber d'une puissance d'égarement. Puis c'est déjà commencé. Qu'il y a des églises qui pitchent leur Bible. Hey, j'ai passé proche de la parole. Il y a des églises qui mettent la Bible de côté pour pouvoir suivre des logiques humaines selon le monde de ce siècle d'aujourd'hui. C'est l'esprit d'égarement qui est commencé. C'est pas des farces. C'est déjà rentré dans des églises. J'ai pas besoin de vous nommer les péchés qui se passent là, mais c'est là. Avons-nous l'amour de la vérité? Ta parole est la vérité. Celui qui néglige la parole de Dieu, parce que là, ça se peut que tu y crois, tu l'aimes, t'en sais pas mal, mais t'en négliges. Celui qui néglige la parole de Dieu oublie aussitôt ce qu'ils sont vraiment. Puis ils ne changeront pas. C'est comme te regarder dans le miroir que la Bible nous dit dans Jacques. Tu te regardes dans le miroir, là, tu te vois que c'était de l'air. Quand tu te détournes après ça, là, c'est pas long que tu oublies l'image que tu as. Pourquoi? Parce qu'on a été créé qu'une mémoire facilement, avec la faculté d'oublier. C'est pas tout le monde qui a la grosse mémoire. Il y en a là qui vont lire une fois un livre au complet, puis ils peuvent te le réciter au complet, puis ils vont dire à telle page, j'ai été écrit telle... Ça, c'est extrêmement rare. En général, on a tout besoin de se la lire, puis de la relire, puis de la re-relire, parce qu'on oublie plein de bouts. Puis si tu veux savoir quel chemin à suivre, puis si tu fais 6 mois, tu ne l'as pas lu, tu n'as pas entendu parler rien de la parole pendant 6 mois, tu as tout oublié. Tu te rappelles quasiment de rien. C'est naturel, c'est normal, c'est de même, ça marche. Puis c'est ça que Jacques nous dit au chapitre 1, verset 22. Il dit, mettez en pratique la parole, puis ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Là, il est en train de nous dire, allez même plus loin que de l'aller. Mettez-la en pratique. Fais pas juste te dire, oh, je l'ai appris. C'est pas juste ça. Là, faut que... là tu te trompes par des faux raisonnements si tu veux pas l'appliquer dans ta vie. Puis là, il rajoute un autre point. Car si quelqu'un écoute la parole puis la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, il s'en va puis il oublie aussitôt qui il était. Pour être transformé sur un point, il faut que tu t'en rendes compte que quand tu te regardes dans un miroir, il y en a qui sont grossissants en plus. Là, on a un qu'on a posé, ma femme a posé, gros de même, mais quand tu te regardes, tu te vois en gros dedans. Puis si t'as un petit point noir, un petit quelque chose qui traîne à quelque part, là, tu le vois encore plus grand. Parce que tu scrutes, là, t'as des miroirs là, qui vont t'aider à voir en profondeur un petit défaut que t'as. On a besoin de voir nos défauts personnels. Si on pense qu'on est correct, on a besoin de retourner devant le miroir. Il n'y a pas un chrétien qui est rendu parfait comme son Père céleste est parfait. Pas un. Il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est pas un qu'avant qu'on vienne au Seigneur, même après, sans le sacrifice de Jésus, c'est impossible qu'on soit saint. Ça prend le sacrifice de Jésus, puis après ça, si tu veux être transformé, faut que tu regardes en profondeur. Tu scrutes la Bible pour arriver à voir des choses que tu ne voyais pas avant. Pour pouvoir t'apercevoir qu'on a encore plein de points à changer, qu'on a encore besoin que le Seigneur vienne faire. Puis si on veut pas mettre en pratique, là, mais tu sais, comme si tu as lu la Bible, mais tu veux pas mettre en pratique, fait que tu vas lire, puis tu vas oublier tout de suite que c'était à être changé dans ta vie. Les conseils là, de Paul qu'il a donné à Timothée, là, c'est des conseils sérieux sur la parole de Dieu. Il dit à Timothée, il dit, plus que tu t'appliques à la lire et à l'approfondir, plus tu progresseras dans le Seigneur. C'est ça que Paul a dit à Timothée. Dans 1 Timothée 4,13, il a dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. S'appliquer, là, c'est de prendre, faire un effort, même si ça nous tente pas, prendre notre Bible et d'en lire une portion à tous les jours, ou l'écouter. Il dit, applique-toi. Le 2 versets plus loin, il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Plus tu vas être trempé dans la parole, plus que tu vas grandir, puis tu vas progresser dans le Seigneur, puis plus que tout le monde va s'en apercevoir que tu as grandi. Surtout notre femme ou notre mari. Les gens sont les plus proches qui vont s'apercevoir de tes progrès. Parce que tu la lis, tu la médites, tu vas la mettre en pratique. La mettre en pratique, des fois, c'est même par après de l'événement. Il y a quelque chose que tu as manqué, tu as dit quelque chose qu'il n'aurait pas fallu. Puis mettre en pratique la parole, c'est même après d'aller t'excuser. Ouch! C'est ça, mettre en pratique aussi. Même après d'aller voir la personne, puis là, même si tu as fait une gaffe en disant quelque chose qui est sorti tout seul, en allant demander pardon, pas t'excuser. T'excuser, c'est une mauvaise expression, parce que là, tu cherches une excuse pour dire, mais là, tu avais une bonne raison de me dire ça. Pas une excuse qu'on a besoin d'entendre, c'est pardon, pardonne-moi. J'ai pas d'affaire à dire ça. Mais mettre en pratique, c'est jusqu'à même après, comme je vous disais. Si tu lis la Bible, puis c'est comme on s'en fout ce qui est écrit ça, comme partant Jésus l'a dit, lui dit, si tu viens présenter ton offrande, puis tu te souviens que tu sais que t'as quelque chose contre quelqu'un, il dit, laisse-là ton offrande, va te réconcilier en premier. Chercher l'unité, c'est ça aussi, là, on cherche l'unité dans l'Église, c'est de faire attention de pas de s'offenser. Puis si ça a sorti, puis qu'on a assez sorti, mais c'est de chercher la réconciliation tout de suite, en demandant pardon, est-ce que pardonne-moi de t'avoir dit ça, j'ai sorti tout seul, c'est les restants de ma chair qui est là. Puis il nous en reste tous, des restants de notre chair.
L'homme qui est en
Ouais, c'est comme si le vieil homme qui est enterré sort la tête du cimetière pour pouvoir être... Bien connaître la parole nous permettra de ne pas abandonner la foi. Il y a des chrétiens qui croient que tout ce qu'ils entendent des doctrines étrangères, puis là, les gens croient à toutes ces fausses doctrines-là. Mais quand tu lis la Bible puis tu médites, là, tu ne seras pas trompé par les faussetés. Tu vas les entendre puis tu vas les rejeter. Tu vas pouvoir dire, il est écrit. C'est ça que le diable a essayé de dire à Jésus. Jette-toi en bas, il est écrit qu'ils vont te porter par les anges, ils vont te porter sur leurs mains pour pas que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais Jésus savait quoi répondre à cet esprit-là. Il a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point, Seigneur ton Dieu. Mais savoir, connaître la Bible va te permettre de répondre dans des situations. Dans 1 Timothée 4.1, ça dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines de démons. L'œcuménisme, là, c'est ça. C'est toutes les religions qui s'unissent ensemble autour de « on jette la Bible de côté puis on s'unit dans l'amour ». Ça, c'est l'œcuménisme dans les religions. Puis ça, c'est abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines de démons. On doit aimer les gens, mais on ne participe pas à leur dérèglement de fausseté. Ça dit, si quelqu'un vient à toi puis prêche une autre doctrine, ça dit, ne lui dites pas salut. C'est ça que ça dit, puis n'invitez-les pas dans votre maison. Celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Tu l'encourages dans ses mauvaises œuvres. On n'encourage pas les autres religions. On peut lui parler de Jésus, s'il écoute. S'il n'écoute pas, on arrête ça là. S'il essaie de nous parler de la sienne, on arrête ça là. Nous autres, on croit, puis on garde notre foi dans la vérité. Parce que c'est écrit que dans les derniers temps, il y en a qui vont l'abandonner, la foi, puis s'attacher à ces démons-là, puis ces fausses doctrines-là. Bien connaître la parole nous permettra de confronter les fausses doctrines. Comme Paul le dit à Tite, au chapitre 1, verset 10. En effet, surtout parmi les circoncis, il y a beaucoup de gens rebelles et de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Il y a du monde que faut que tu leur fermes la bouche pour leur dire ce que tu dis là est faux, c'est pas biblique. Puis si tu connais la parole, tu vas être capable de dire. Si tu connais pas, tu vas, oui, c'est beau, puis là, t'entends d'autres choses qui est faux, oui, c'est beau, puis tu seras vraiment capable de dire à l'autre que c'est pas correct. Comment tu vas devenir capable? Faut méditer la parole, puis l'apprendre. Faut pas gêner. Puis quand ça arrive, il faut lui fermer la bouche, parce qu'ils font du tort à tout le reste de l'Église. C'est arrivé quand j'ai eu des personnes à reprendre parce qu'ils étaient rendus dans les fausses doctrines, même dans l'Église ici. Je nomme pas de nom, je veux pas qu'on regarde personne, mais c'est arrivé. Faut que ça soit la vérité seulement. Sinon, il a induit les autres en erreur. Il dit, il faut lui fermer la bouche. Il bouleverse des familles entières enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Il enseigne des faussetés pour lui fermer la bouche. Paul, il comprenait l'enjeu et la place importante de l'enseignement de la parole pour notre connaissance et notre intelligence. La parole, elle nous donne du discernement afin qu'on soit irréprochable lorsque Yeshua, notre Messie, reviendra. Dans Philippiens 1:9, ça dit, c'est Paul qui parle, il dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. C'est le besoin de tous, que notre amour à tous, l'amour du Seigneur, augmente en pleine connaissance et intelligence. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables. Pour arriver à ça, il faut grandir dans la connaissance. Puis on est tous appelés à être comme cela, des connaissants de la parole. des professeurs. C'est ça, il dit, vous êtes en cours, vous avez besoin qu'on vous enseigne des rudiments, des choses de base. Vous en êtes encore au petit lait. Quand on grandit dans le Seigneur, après ça, on devient des hommes de Dieu, parce qu'on discerne, on est capable de rejeter des faussetés, puis d'expliquer les vraies affaires. Amen. Paul continue en disant que par les enseignements, puis en s'examinant soi-même, afin de marcher fidèlement, nous ferons persévérer en Dieu. Nous-mêmes, on va persévérer en Dieu, mais les autres aussi qui nous écoutent vont persévérer en Dieu si on est ferme, à rester ferme dans ce qui est enseigné. C'est ce que dit à Timothée dans 1 Timothée 4,16. Il dit, veille sur toi-même puis sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même puis tu vas sauver ceux qui t'écoutent. Combien est-ce qu'il y en a qui veulent être perdus ici? Qui aimeraient ça aller dans l'étang de feu pour l'éternité? Donc, ma mission, c'est de veiller sur moi-même puis sur mon enseignement afin que je sois sauvé puis que vous soyez sauvés. Ça a-tu du bon sens? C'est ça que Paul a dit à Timothée puis c'est ça qu'il nous dit à nous aujourd'hui. Restons dans les enseignements de la parole de Dieu. Ceux qui s'appliquent à marcher selon la parole fidèlement seront heureux dans leur activité. C'est ce que Jacques dit dans Jacques 1,25. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, puis qui aura persévéré, n'étant point un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Y en a-tu qui sont malheureux aujourd'hui? Moi, je parle d'ici. Y en a-tu qui sont malheureux? Vous n'êtes pas supposé d'être malheureux. Vous venez d'entendre la parole qui va vous rendre heureux. Ce que vous avez entendu là, ça va vous aider à vous propulser pour votre semaine, pour continuer à rester de plus en plus bouillant puis ferme sur la parole, puis de vouloir la mettre en pratique. Puis Dieu va vous accompagner, puis vous allez être heureux dans votre activité. Puis je finis avec un dernier verset. Les chrétiens ont un choix à faire, de rejeter souilleux, puis de recevoir la parole qui peut nous sauver. Dans Jacques 1,21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole peut sauver nos âmes. Ça sous-entend quoi? Ça se peut qu'elle ne sauve pas si on ne la met pas en pratique. Il y en a qui, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, puis ils ne veulent pas le savoir. Ceux qui veulent le savoir, ça va rester dans le cerveau, puis ils vont y réfléchir. Puis ils disent, oui, c'est vrai. Puis eux autres, ils vont s'appliquer. Puis c'est ça, il faut méditer. Puis là, on l'applique, puis on démontre qu'on est des vrais. Amen. Puis le Seigneur veut nous rendre vrais. Il veut nous rendre assoiffés. Puis il veut qu'on soit des enfants qui désirent le lait spirituel pour croître, pour grandir, pour devenir plus forts dans le Seigneur. Puis il veut le faire en chacun de nous. Mais il veut qu'on y demande de l'aide pour si on n'est plus capable d'y arriver. Puis c'est ce qu'on va faire comme prière. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour tes vérités, Seigneur. Mais on avoue qu'on a de la misère à prendre du temps à chaque jour pour la lire. On avoue qu'on la médite pas jour et nuit. Oui, on veut mettre en pratique ta parole, mais on oublie souvent les choses que tu nous enseignes. Je te demande de nous donner à tous une soif de lire ta parole, une soif de l'écouter, pour qu'on puisse la méditer puis demeurer dedans dans un désir de vouloir la mettre en pratique. On veut mettre en pratique parce que c'est ce que tu t'attends de nous, Seigneur, puis tu nous promets que tu en vas devenir plein de fruits dans nos vies. Merci, Seigneur, de ce que tu vas produire en nous. On veut être ces arbres pleins de fruits. On remet nos ventres à tes mains, Seigneur. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.